Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Au menu, le plaidoyer du Haut-Commissaire aux droits de l'homme pour la démocratie, le début des célébrations de la Journée internationale de la femme, les prochains essais d'un nouveau vaccin contre Ebola en Guinée. Dans le dossier coup de projecteur sur la place des femmes, justement dans les parlements, et puis retour avec la FAO sur une initiative pour une meilleure gouvernance foncière en Afrique. On commence avec Genève et le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui a exhorté aujourd'hui les États à ne pas lâcher prise sur les principes des droits de l'homme qui sous-tendent leur société dans la lutte contre l'extrémisme violent. Devant le Conseil des droits de l'homme, Zaid Raad al-Hussein a déclaré que le combat contre la terreur est une lutte pour défendre les valeurs de la démocratie et des droits humains et non pas pour les saper. Alpha Diallo.
Dans un discours fort prononcé ce jeudi devant le Conseil des droits de l'homme, le haut-commissaire a une nouvelle fois martelé que la lutte contre le terrorisme ne doit pas se faire au détriment du droit international. Une façon pour Zaid Raad al-Hussein de rappeler que des mesures antiterroristes brutales, disproportionnées et mal supervisées risquent de transformer les terroristes en martyrs. Elles risquent aussi de fournir aux extrémistes un outil de propagande n'offrant ainsi à nos sociétés ni davantage de liberté, ni davantage de sécurité. Pour le chef des droits de l'homme de l'ONU, les campagnes militaires, les sanctions financières et les tentatives de contrôler les flux d'armes peuvent être une partie de l'arsenal pour lutter contre l'extrémisme. Un extrémisme nourri par idéologie, des années d'exclusion, la répression, les discriminations et le déni des droits légitimes des peuples. Zaid Raad al-Hussein a ensuite fustigé les atrocités commises par les djihadistes en Irak, en Syrie et en Libye, ainsi que les crimes de Boko Haram au Nigeria et dans le bassin du lac Tchad. Face à ces graves abus, il a invité les États à défendre les principes des droits humains dans la lutte contre l'extrémisme violent. Alpha Diallo, Genève. Pour la Radio des Nations Unies.
Une déclaration du haut-commissaire faite alors que le Conseil des droits de l'homme a achevé son débat de haut niveau en entendant plusieurs ministres, dont celui de la République du Congo, Basile Ikwebe, qui s'est félicité du choix de thème du débat de haut niveau de cette année qui porte sur le renforcement de la coopération dans le domaine des droits de l'homme.
Seul l'engagement sincère et la volonté déterminée des États à placer la question des droits de l'homme, des droits fondamentaux de la personne humaine au centre des préoccupations nationales pourrait, à notre avis, induire un environnement propice au renforcement de la coopération dans ce domaine. Ce qui présuppose que chaque État membre maîtrise les outils et les mécanismes de coopération, agit au plan national en faveur du respect des droits humains, dispose des capacités de garantir l'effectivité et l'efficacité des systèmes nationaux en relation avec les systèmes régionaux et internationaux, de promotion et de protection de tous les droits de l'homme.
À l'approche du 8 mars, l'ONU tient ce jeudi à New York un forum de la Journée internationale de la femme de 2015 intitulé « La voie vers l'autonomisation, construire une vie d'opportunités pour les femmes et les filles ». Sakena Yacoubi, la directrice de l'Institut d'apprentissage afghan, a ouvert les discussions. Elle a souligné l'importance de l'éducation avec à l'appui l'exemple d'une des bénéficiaires de son programme.
That girl went to school.
Cette fille est allée à l'école et vous savez, aujourd'hui, cette fille poursuit des études de médecine à l'université de Kaboul en Afghanistan. Elle est devenue une infirmière grâce à la fondation Abbott qui a soutenu notre programme de formation d'infirmiers au Pakistan. Elle est devenue une infirmière et est allée en Afghanistan. Elle a acheté un logement pour sa famille et sa mère est maintenant assise à la maison. Son frère et sa sœur vont à l'école et elle vient d'entrer dans l'école de médecine cette année. C'est ça l'autonomisation. C'est ça l'émancipation par l'éducation. Et si l'on faisait ça, comme ça, partout dans le monde, vous imaginez ce qui pourrait arriver? Le respect de soi qu'elle gagne, l'automotivation. C'est ça l'éducation. Vous ne nourrissez pas les gens simplement en leur donnant. Vous le faites avec une cause qui va vraiment les aider.
L'indice des prix alimentaires de la FAO poursuit sa baisse. Tiré par le sucre, celui-ci a atteint en février son plus bas niveau en 55 mois, soit 1% de moins qu'en janvier et 14% de moins qu'il y a un an. L'indice de février, qui mesure la variation mensuelle des cours internationaux d'un panier de denrées alimentaires, reflète aussi en partie les niveaux records de production agricole recensés en 2014. Isabelle Dupuis.
Selon la FAO, c'est l'indice des prix du sucre qui a connu la plus forte variation en février avec 4,9% de moins qu'en janvier, traduisant ainsi les perspectives optimistes de la production au Brésil et l'annonce en Inde d'un subventionnement de ses exportations pour doper les ventes de sucre à l'étranger. L'indice des prix des céréales est en repli de 3,2%, cette baisse étant essentiellement due aux perspectives exceptionnelles du blé. L'indice des prix de la viande a de son côté reculé de 1,4% malgré la première augmentation en 8 mois des prix de la viande porcine. Ce sont les cours du bœuf et du mouton qui sont en repli. Le prix des produits laitiers a par contre enregistré une hausse de 4,6% suite entre autres au ralentissement saisonnier de la production européenne. Et le prix des huiles végétales a lui aussi gagné 0,4% en raison des inondations qui ont frappé récemment la Malaisie et d'une hausse des subventions indonésiennes aux biocarburants. La FAO précise aussi que l'indice du mois de février reflète les bonnes conditions de l'offre et la faiblesse de nombreuses devises face au dollar.
Enfin, sur la base des données prometteuses tirées des essais cliniques de phase 1 fin 2014, l'OMS, avec notamment le ministère de la Santé guinéen et MSF, vont lancer un essai de phase 3 en Guinée le 7 mars pour tester l'efficacité du vaccin VSV-EBOV contre le virus Ebola. Ce vaccin a été mis au point par l'Agence de la Santé publique du Canada. Daniela Bagosi, du Bureau de la Santé et du Développement mondial à l'OMS, explique les différentes phases d'essais cliniques du vaccin.
On a fait plusieurs essais cliniques de phase 1. Donc la phase 1, normalement, c'est pour voir s'il y a des effets négatifs du vaccin. Donc on utilise des doses assez basses. Il y a eu 2 ou 3 cas d'effets d'arthrite très légère dans certaines personnes vaccinées. Mais on a vu que ça passait au bout d'une semaine ou deux. Donc on est passé directement à la phase 3, étant donné que l'épidémie de l'Ebola est encore très présente. On a vu récemment qu'en Guinée, en Sierra Leone, ça continue quand même. Donc, étant donné l'urgence qu'on a de trouver un outil médical qui puisse arrêter cette épidémie et pour protéger surtout les pays en Afrique de l'Ouest d'épidémies futures, on est passé directement à la phase 3, qui est, disons, la phase décisive.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
L'Union parlementaire vient de publier une analyse sur la représentation des femmes dans les parlements du monde. Selon l'UIP, depuis l'adoption en 1995 du programme d'action de Beijing sur l'émancipation des femmes, la proportion des femmes parlementaires dans le monde a presque doublé, passant de 11,3 à 22,1%. L'UIP estime toutefois qu'une action politique concertée s'impose pour accélérer la progression vers l'égalité politique. Isabelle Dupuis a tendu son micro à Karine Jabre, elle est directrice des programmes de l'UIP.
Ces 20 dernières années ont été des années de progrès assez réguliers. Tous les pays ont aussi également progressé en termes de nombre de femmes dans leur parlement, à l'exception de 18 pays, qui est aussi vraiment très notable et que les pays de tête aujourd'hui ne sont plus des pays européens, comme c'était le cas en 1995. Aujourd'hui, les 10 pays qui ont le plus haut pourcentage de femmes au parlement viennent d'Afrique principalement, d'Amérique latine et puis 3 européens. Une des principales raisons pour ce progrès, ça a été l'universalisation de l'usage des quotas. Dans la plupart des pays du monde aujourd'hui, plus de 120 pays ont mis en œuvre une forme ou d'autre de quotas pour essayer de faciliter l'accès des femmes au Parlement.
L'analyse indique toutefois qu'il y avait eu des chiffres records en 2013, mais qu'un ralentissement a toutefois été observé en 2014. À quoi l'expliquez-vous?
On est passé de 1,5 point de pourcentage de plus en 2013 et en 2014, ça n'a été que 0,3 point de progrès. Mais ça ne s'explique pas par des grosses chutes ou des grosses défaites. Je crois que ça s'explique tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de progrès très grand dans les pays qui ont eu des élections. C'est-à-dire que certains pays ont fortement progressé, mais ils étaient très peu nombreux pour avoir un impact significatif sur la moyenne mondiale. En 2014, on a eu des pays comme la Bolivie, par exemple. La Bolivie a augmenté de 30 points son pourcentage de femmes au Parlement, ce qui est vraiment impressionnant. Mais l'ensemble des pays en 2014 ont eu des progrès beaucoup plus modestes, donc l'impact sur la moyenne mondiale a été moindre. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est par exemple dans les pays africains, où là, on a eu un recul de la moyenne régionale. Pour nous, le message général de cette année 2014, c'est que le progrès n'est pas donné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester sur des acquis. Rien n'est acquis et il faut constamment prendre des actions positives et proactives pour maintenir le progrès et maintenir les avancées. Ou sinon, on va reculer.
Et quelles sont justement certaines des actions que vous préconisez pour éviter tout recul à l'avenir?
Je crois crois qu'il faut continuer d'avoir des leaders qui sont engagés sur la question des égalités entre hommes et femmes en politique, parce que ça, ça ouvre le débat et ça donne une vision de là où on veut arriver et ça pousse un pays à joindre des efforts pour atteindre un but commun. Je crois que les quotas restent encore une réponse, mais aujourd'hui, les quotas ne sont peut-être pas assez forts. On a vu une tendance récemment, surtout dans les pays d'Amérique latine, à une réforme de quotas pour augmenter l'objectif. C'est-à-dire que beaucoup de pays d'Amérique latine ont réformé leurs lois pour passer d'un objectif de 30% à 50%. Donc ce passage de 30 à 50, je crois que c'est ce qui va devenir de plus en plus la norme. Et ça, ça va permettre encore de maintenir certaines avancées. Mais je crois aussi qu'il faut maintenant regarder certains corps de la population auxquels on n'a pas fait trop appel jusqu'à ce jour en termes de participation politique. Je crois que la représentation des femmes au Parlement et la représentation d'un groupe de femmes, surtout celles qui ont eu les moyens ou l'accès, alors qu'il y a encore un gros potentiel de femmes au sein des minorités ou de classes sociales plus défavorisées, etc., qui n'ont pas eu encore un accès facile aux prises de décision et aux organes de prise de décision comme le Parlement. Donc il va falloir réfléchir à comment avoir un processus plus inclusif qui va permettre aussi une plus grande diversification du genre de femmes, entre guillemets, qui va être élue au Parlement. Donc il faut ouvrir encore plus les portes pour avoir une diversification au sein du groupe des femmes. Je crois que c'est là aussi quelque chose qu'il faudra réfléchir et investir plus, et la jeune génération. Parce que là, je crois que l'engagement politique des jeunes et des jeunes femmes va être la clé pour le progrès à venir.
Les communautés vulnérables à travers l'Afrique doivent être soutenues par un nouveau programme sur la gouvernance des terres visant à promouvoir le développement durable et la protection des droits fonciers légitimes. Le lancement du programme s'est déroulé à Niamey, au Niger, fin février. Il était organisé par la FAO et l'initiative de politique foncière menée par l'Afrique. Pour en savoir plus, Stéphanie Koutrix a joint Rouiza Boroto. Il est expert dans la sécurité alimentaire à la FAO.
C'est un programme en fait qui vise d'abord à promouvoir la bonne gouvernance foncière et la promotion des directives volontaires qui ont été acceptées en mai 2012 pour en fait une bonne gouvernance foncière qui couvre non seulement la terre mais aussi la pêche et les forêts. Tout ça dans un contexte de sécurité alimentaire nationale. En parallèle avec ces directives volontaires, il y a l'initiative de la politique des terres de l'Union africaine qui a développé aussi un cadre et des directives pour justement accompagner les politiques des terres en Afrique. Ce programme couvre 10 pays, l'Angola, le Burundi, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Kenya, le Malawi, le Niger, la Somalie, le Sud-Soudan et le Swaziland. On pourrait dire que cette réunion est une opportunité en fait de capitaliser sur cette rencontre de tous les 10 pays pour non seulement renforcer leurs capacités, pour que quand ils rentrent dans leurs pays respectifs, ils sont suffisamment équipés pour mettre en œuvre ces programmes, mais aussi pour qu'ils soient tous mis à jour, qu'ils se connaissent et quand ils rentrent, qu'ils soient conscients des conditions spécifiques de leur pays pour appliquer ces directives volontaires, pour appliquer cette politique des questions foncières.
Alors vous avez parlé de 10 pays qui bénéficieront du programme. Comment est-ce que ces pays ont été choisis?
Si vous analysez ces pays, ils sont divers pour différentes raisons, non seulement du point de vue géographique, mais aussi comme dans le cas du Niger qui est un pays plus ou moins aride ou semi-aride. Il y a des pays qui sont plus humides comme l'Angola. Il y a des pays qui couvrent la région de la Corne de l'Afrique, notamment l'Éthiopie. Il y a l'Afrique centrale qui s'est représentée notamment par le Burundi. Il y a les cas du Sud-Soudan qui est un pays transitoire. Il y a des pays de l'Afrique australe dont le Swaziland et le Malawi. Donc ça nous permet de prendre un éventail suffisamment représentatif pour que quand d'autres ressources seront mobilisées, que nous puissions en fait prendre les leçons que nous aurons apprises de ces 10 pays pour les appliquer de façon plus facile dans tous les autres pays et maximiser nos chances de succès pour en fait maximiser les retours sur l'investissement que nos partenaires au développement ont consenti, que leur investissement puisse être fructueux et attirer en fait d'autres investissements pour que nous puissions couvrir toute l'Afrique dans le long terme.
Alors plongeons au cœur du sujet. Quels sont les plus grands défis de la gouvernance foncière et qui sont les personnes donc les plus affectées?
D'abord, les personnes les plus affectées, ce sont les pauvres paysans qui sont souvent laissés à eux-mêmes, qui ne sont pas très conscients des enjeux auxquels ils font face. Ils font face souvent à des conflits d'héritage, entre des successions d'héritage en famille. De nos jours, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui viennent aussi en Afrique pour acquérir des grands terrains, vraiment des grandes propriétés foncières. Et souvent, si les populations locales ne sont pas impliquées, si elles ne sont pas informées, elles se retrouvent perdantes. Le but de cet exercice, c'est que quelle que soit la transaction qui a lieu, quel que soit celui qui est à son origine, que ce soit un étranger ou le gouvernement ou un privé local, que les pauvres personnes, les marginalisées, se retrouvent mieux après une transaction par rapport à la période d'avant la transaction.
Voilà, et c'est ainsi que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.